Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est maintenant disponible sur les plateformes de C23 de par notre association avec Cogeco. Je vous rappelle également qu'on est diffusé à la télévision, également maintenant à TVA Sport. Et Hugues, je te salue parce que tu as entendu nos premières promos à Cogeco ce matin, lundi matin, avant notre enregistrement.
Oui. Ben c'est un point important dans notre commercialisation. Évidemment, on continue d'augmenter notre portée. C'est une constante depuis les débuts du podcast en 2019. Mais là, on passe à un niveau encore plus élevé, évidemment, quand on est sur la station numéro 1 au Québec, voire au Canada, le 98.5. C'est très important que les gens aient plusieurs façons de nous trouver et de nous connaître. Il n'y a pas de meilleur canal que 98.5 le matin quand on s'en vient au travail et qu'on entend une émission comme Sur la ligne. Là. Voilà.
C'est la radio parler la plus écoutée au Canada,
même pas... Dans plusieurs créneaux horaires, exact.
Au Canada. Et on est bien fiers de cette association-là avec Cogeco. Par ailleurs, vous excuserez ma voix un peu rocailleuse. Je couvre un petit virus depuis la fin de la semaine passée, cumulé avec beaucoup de fatigue, mais on se sent mieux, assez pour pouvoir animer l'émission. Nicolas Richard, je te salue. Comment te portes-tu? Tu n'as pas eu beaucoup de congés en fin de semaine, toi qui as couvert la Coupe Davis pour la presse.
Mais ça a été fort agréable, les gars, de se rencontrer. On le fait de manière assez sporadique. Mm-hmm. Puis là, de voir la communauté tennis qui était réunie, j'ai trouvé ça pas mal chouette. Là. Les gens étaient au rendez-vous aussi. Là. Surprenamment, là, je dois dire, là, je n'étais pas convaincu avec l'horaire aussi. Là, ça a commencé un vendredi après-midi, il ne faisait pas super beau. Je ne m'attendais pas à une foule aussi réceptive, aussi nombreuse, mais de voir que la communauté tennis a répondu présent, d'autant plus les gars, disons les choses telles qu'elles sont, c'est de la qualification contre la Corée avec une équipe canadienne B. Et voir que les gens ont dit présent, pour moi, c'était une belle surprise.
On en a parlé avec Valérie Tétrault, que vous pourrez entendre un peu plus tard dans l'émission, parce qu'on a reçu la directrice de l'Omnium Banque Nationale. Et on a parlé de cette compétition-là qui a été organisée là, rapidement par Tennis Canada. Et honnêtement, je pense qu'ils ont bien fait les choses. Je salue également Abraham Santerre, qui était notre reporter sur place en fin de semaine, accompagné de Nicolas Bergeron, qui a fait sa magie sur les médias sociaux une fois de plus. Abraham, excellent travail une fois de plus. C'est toi qui vas nous aider à porter ce bloc-là sur la Coupe Davis. Et écoute, rentrons dans le vif du sujet, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. Je vais commencer avec, qu'est-ce qui a retenu ton attention ce week-end pour la Coupe Davis?
Je vais répéter ce que Nicolas a dit. Premièrement, je veux juste dire merci de m'accueillir encore une fois, les gars. Ça fait un petit bout que je ne vous ai pas parlé dans le podcast. Je suis bien content. Et ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment la foule puis l'engouement qu'il y avait sur place, malgré qu'on voit que c'était vraiment des installations temporaires et tout. C'était vraiment bien fait. Puis tout le monde encourageait. On avait une ambiance de Coupe Davis. Moi, la dernière fois que j'avais vécu ça, c'était en 2018. Puis j'avais 14 ans. C'était la Coupe Fed avec Bianca Andreescu. Donc, je me souvenais plus exactement à quoi ça ressemblait, mais c'était électrisant. Là. C'est complètement différent que l'Omnium Banque Nationale, par exemple. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. Puis ça a commencé de très belle manière avec Gabriel Diallo qui a gagné 6-4, 6-4 contre le favori, le meilleur joueur, en fait, de la Corée, Soo-Woo Kwon. Et vraiment un match impeccable et qui a vraiment donné un avant-goût des prochains matchs pour le Québécois. Et ensuite, c'est Vacek Pospisil qui est arrivé. Et lui, il y avait un peu plus un point d'interrogation sur lui. On ne savait pas comment il allait jouer. Il a souvent subi des blessures, tout ça. Et il a vraiment joué un match wow, surtout au filet, avec des volées impressionnantes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars, mais c'était impressionnant.
Oui, moi, juste un commentaire global. Je pense que Gabriel Diallo a joué les héros ce week-end. Il y avait beaucoup de poids sur ses jeunes épaules. On sait que Gabriel est du quartier Villeray, hein, où elle s'est à DGA. Donc, ses amis, sa famille étaient là, ses parents étaient là. On a vu ses parents. Ça a été vraiment une rencontre bien menée contre un adversaire coriace en la République de Corée. Mais effectivement, les deux premiers simples, la première journée, ont enlevé beaucoup de pression à l'équipe. J'étais bien content que Gabriel Gabriel gagne son premier match. Et effectivement, Vachek a bien performé aussi, malgré une petite controverse sur les balles dont on pourra parler un peu plus tard.
Et je suis d'accord avec toi, Abraham, qu'il y avait quand même un gros point d'interrogation sur Vachek. Et puis, je pense que Nico va être le premier à être d'accord avec ça. Écoutez, quand on lui a parlé à Granby l'année passée, il avait un peu monté nos attentes en disant « Bon, ben j'aimerais revenir dans le top 50, dans le top 30. » Et les résultats n'ont pas été proches de suivre par la suite. Alors, c'est sûr qu'on se posait beaucoup de questions sur, bon, quel était le niveau vraiment de Vachek Pospisil, mais visiblement, son niveau était suffisant pour permettre au Canada de prendre les devants 2-0 dans cette rencontre-là. Et puis, Abraham, tu l'as rencontré, toi, après la rencontre.
Oui, ben je vous laisser avec un petit extrait avec la question que Nicolas lui a posée.
Salut Vachek, félicitations. Dans le dernier point du match, lorsque tu as fait 3 volées, à quel point tes qualités de joueur de double ont aidé pour ce moment-là?
Oui, le volet, c'est toujours quelque chose, un point fort de mon jeu. Alors, si je monte au filet, ça veut dire que je joue agressif et que je sers bien et j'ai les meilleures chances de gagner le match. Parce que pour moi, c'est naturel de monter au filet. Quand j'ai une balle courte, je joue fort et je viens au filet. Alors, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses dans mon jeu qui marchent. Alors, et j'étais bien au filet aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Alors, content de ça. Ouais.
Alors, Nico, avais-tu l'impression que c'était ce qui a fait la différence dans ce match-là pour toi, le fait que bon, il puisse s'amener au filet et puis son jeu de double l'a aidé?
Bon, on le voit régulièrement, tu sais, lorsque des joueurs qui sont à l'aise en double, même Félix, là, rappelez-vous, au début de sa carrière, lorsqu'il montait au filet sa pression, on le voyait que, comparativement à certains autres joueurs de la Next Gen, les qualités de Félix en double ont aidé. Même chose pour son partenaire Hubert Hurkacz. Dans ce match-là, je ne pense pas que ça a été névralgique, ou du moins que ça a fait une immense différence, mais dans les points importants, Pospisil, il l'a dit, quand ça va bien, de nature, je monte au filet. Et lorsque je monte au filet, inversement, habituellement, ça se passe plutôt bien. Puis lors du dernier point du match, les gars, le Coréen envoyait des missiles au corps de Vachek et trois fois plutôt qu'une, il a renvoyé la balle de l'autre côté pour finalement mettre le point d'orgue au match. Donc, je ne pense pas que ça fait une différence énorme, mais dans les points importants, les qualités de Vachek en double, je pense, ont été assez importantes.
Parlant du double Abraham, ben, il y a Alexis Gallarneau, notre préféré, qui a participé au double. Ben, c'était son premier match en 2024.
Mais oui, ça fait 2 mois qu'il n'avait pas joué environ. Puis on l'a remarqué, c'était vraiment pas facile pour Alexis. Ça a pris un petit moment pour qu'il commence à avoir plus de sensations. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont dit qu'il n'avait pas eu beaucoup de temps pour se pratiquer avant le match. Donc, si on prend ça en compte, ça a été une super performance d'Alexis. Ouais. Mais en effet, Vachek, lui, il était quand même très en forme. Mais avec Alexis, ça a été plus difficile. Mais ça a été une défaite en un long match. 3 manches, ça finit 6-3 au troisième. Et on peut écouter Alexis là-dessus sur son retour.
Ouais, c'est sûr qu'en début de match, ça a été compliqué. Un peu de nervosité, un peu d'inconnu par le fait que j'avais pas joué de match compétitif depuis deux mois. Mais avec l'aide de Vachek, avec l'aide du public, je pense que de jeu en jeu, j'ai commencé à jouer de mieux en mieux. Puis, recommencé à être un peu plus confortable sur le terrain. C'est juste dommage. Au troisième set, je pense qu'ils ont bien servi. Nous, peut-être un jeu où est-ce qu'on quelques balles qu'on n'a pas closées. C'est ça qui fait la différence.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alexis? C'est-à-dire que ce match-là... Ce match-là aurait pu très bien se terminer après le double, mais d'une certaine manière, on a manqué d'opportunisme du côté du double canadien. Hugues, tu sembles d'accord?
Exact. Ben, moi, j'ai trouvé somme toute qu'Alexis, effectivement, malgré une préparation limitée, il me disait qu'il y a encore 3 semaines, il jouait avec balle rouge, balle orange. Là. Il n'était pas avec des balles régulières. Fait qu'il a dû retrouver ses sensations. Un petit message pour tout le monde aussi, c'est toujours utile de recommencer avec une balle qui est moins rapide pour retrouver ses sensations. C'est ce qu'Alexis a fait. Donc, j'étais un peu nerveux, moi aussi, de voir son niveau de régularité dans différents aspects du jeu. Moi, je l'ai remarqué un peu en retour, où il semblait un petit peu... peut-être en retard sur quelques balles, mais il a quand même bien servi au filet, ça s'est bien passé aussi, il avait des bonnes mains au filet, et c'est ça qui est important en double. Donc effectivement, il n'était pas si loin que ça, là. Je pense qu'il était quand même content de sa performance, puis ça n'a pas été un mauvais double. Ils auraient pu finir cette rencontre-là en 3 matchs et gagner le double.
Nico, ton analyse sur ce match de double?
je regardais le match avec Abraham justement dans les gradins, puis j'ai pas la même vision, mais je suis un peu plus pessimiste dans la mesure où au début, je trouvais notamment Alexis. Bon, Hugues l'a dit, il avait l'excuse d'être pour en action de manière que dans un contexte comme celui-là, il n'y a pas place à l'erreur. Et rapidement, les Coréens ont saisi que la faiblesse du côté canadien, c'était Alexis. Je ne sais pas le nombre de fois qu'ils ont visé Galarno au filet. Je trouvais que Vachek avait l'air presque d'un figurant lors des échanges au filet parce que toutes les balles allaient en direction d'Alexis. Puis, mine de rien, bon, on l'a dit, c'est un premier match depuis un sacré bail. Mais il y a eu de la difficulté à s'adapter aux balles, notamment en retour de service. Combien de fois, Abraham, souviens-toi, on s'était dit, mon Dieu, il a de la misère à s'adapter aux balles qu'il a capté souvent avec la raquette devant le visage parce qu'il est incapable de s'adapter. Donc, je pense en format Coupe Davis, on n'a pas le temps de s'adapter. On doit être tight et on doit être d'aplomb rapidement. Et le Coréen, sur le plan stratégique et tactique, ils ont été très, très forts.
Intéressant ton analyse, Nico. J'aurais pas été surpris que ça se termine après le double. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pensait que ça allait être un balayage, ce match-là après la première journée. Chose certaine, les Coréens ont rendu ça intéressant. Mais c'est quand même Gabriel Diallo qui aura eu le dernier mot, Abraham.
Oui, puis je me souviens, après le match de double, il était proche de 5h, 5h30. Là, tout le monde, dans les médias et tout, on se regardait, on trouvait la journée longue. Là. On avait hâte que ça finisse. Puis là, on s'est dit, Gabriel, il faudrait qu'il gagne ça là parce qu'un cinquième match, on ne sait pas à quelle heure on est sorti d'ici. Puis on l'a prouvé parce que le match à Gabriel a fini, il était passé 7h le soir. Là. Puis à la conférence de presse qu'on va écouter dans quelques instants, ça a eu lieu à 8h30. Donc, c'était pas une journée facile, disons. On s'attendait à partir plus tôt. Gabriel qui a gagné ça en 3 manches, le match final contre Seon Chang-Hong, dont 6-1 la dernière manche, qui a été complètement différente que les deux premières. Là. Il a fait 50 fautes dans la première, dans les deux premières manches. Et dans la dernière manche, il en a fait seulement 11 environ. Donc, tout a changé pour Gabriel, puis il en a parlé aussi d'être heureux d'être chez lui en fin de semaine.
Je pense pas qu'il y a quelque chose qui peut vraiment te préparer à ça. Je pense qu'il faut que tu sois ouvert d'esprit. Il y avait beaucoup de premières fois pour moi ce week-end. Première fois de jouer une Coupe Davis à la maison. Surtout ici au Stade Unipri. Donc, c'était sûr que c'était spécial pour moi, mais j'essayais d'être le plus ouvert d'esprit, puis de pas mettre, on va dire, de barrières ou de limites. Mentalement, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à un bon début, un mauvais début. J'étais très concentré aussi sur la tactique. Puis, je pense que ça m'a aidé beaucoup de pouvoir de pas mettre tout mon focus sur les émotions, puis essayer de mettre plus mon énergie et mon focus sur le tennis, sur ce que je contrôle. Puis, ouais, ça a bien marché, heureusement.
Alors, Gabriel Diallo qui a voulu, d'une certaine manière, garder son calme alors qu'il joue à la maison. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le cas de Gabriel Diallo. C'est qu'il y a une tendance qui se dessine à Montréal. C'est-à-dire, c'est un peu ici qu'on l'a découvert en qualification il y a 2 ans, alors qu'il avait surpris Duckworth. Alors, ça, c'était déjà intéressant. Il a gagné un ETF, c'est un 25 000 $ si je me souviens bien, il n'y a pas si longtemps à Montréal.
Il y a 20 ans dernier, au Stade IGA.
Alors voilà. Et là, il fait une performance digne de ce nom dans une compétition particulièrement importante, la Coupe Davis à Montréal, où il était le numéro 1. Et il a livré.
Oui.
Je pense qu'il est à l'aise à Montréal, le bon Gabriel Diallo.
Oui. Allons un peu plus en détail sur la composition de l'équipe. Puis effectivement, ça met en perspective l'importance de ses réussites à Gabriel le week-end dernier pour la Coupe Davis, parce que Miloš Raonic, qui était sur le banc des joueurs, n'était pas nécessairement en état de jouer. Alexis, on en a parlé, n'était pas non plus à 100%. Il venait de reprendre. Donc, ça ne laissait pas beaucoup de marge de manœuvre à Gabriel, qui agissait comme numéro 1 au sein de l'équipe ce week-end. Et encore une fois, très haut niveau de pression, et ça démontre aussi qu'il peut livrer dans ce contexte-là. Et on sait quand on joue pour son pays, ça ajoute un autre niveau de pression aussi. Moi, ça m'encourage beaucoup pour le reste de sa saison, mais effectivement, il performe bien au Canada, Gabriel.
Ouais. Commentaire, Nico, sur Gabriel Diallo, peut-être à Montréal. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier pour lui à Montréal?
Ben, complètement, il l'a répété toute la semaine. Mais ce que j'ai apprécié de Gabriel, c'est qu'à 22 ans, comme je le disais dans ma question, il avait deux lourdes tâches. Briser la glace.
Ouais.
On sait que dans un duel, et ensuite de fermer les livres après un double, on le dit, coussi-coussa, où les Coréens auraient pu reprendre l'ascendant. Puis souvenez-vous, les gars, contre la Belgique, les Coréens avaient déjà remonté un déficit de 0-2, donc ils savaient que c'était possible de le faire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est l'adaptation de Gabriel Diallo en à peine 24 heures. Dans le match de vendredi, il a dit, insatisfait de sa manière de servir, insatisfait dans sa manière de monter au filet, insatisfait dans la manière de gérer certains points. Ça n'a pas été un match parfait dans celui qui a donc donné la victoire au Canada, mais quand même, son service, il a été impeccable. On l'a vu. Pour les gens qui n'avaient jamais regardé Diallo, ben, il contrôle chacun des points. Et ça a été le cas. Encore, évidemment, il a 22 ans, encore certains défauts dans sa manière de gérer certains points. Mais de manière générale, ça a été une évolution remarquable de Gabriel Diallo en seulement 24 heures. Et c'est ce que je retiens de ce week-end-là.
Intéressant. Bref, c'est une victoire particulièrement importante parce que sans Félix, sans chapeau, eh bien, le Canada se qualifie pour la phase finale de la Coupe Davis. Et puis, bien, à partir de là, tout est possible. Tous les espoirs sont permis. Avant de te laisser aller, Abraham, peut-être nous faire un petit résumé, là, peut-être de défaites surprises là, qui se sont passées dans cette Coupe Davis-là, parce que le Canada a passé, mais il y a eu quelques surprises. Il y a des grandes nations qu'on ne verra pas en finale.
Oui, on peut commencer par la Serbie de Novak Djokovic qui a perdu sèchement un balayage par la Slovaquie. Djokovic était absent, évidemment, mais c'était quand même pas attendu que la Serbie perde de cette manière-là. Dans un autre duel, Belgique contre Croatie, deux grandes nations. La Belgique l'a emporté, donc la Croatie qui ne sera pas présente aux prochaines étapes. Et il y a aussi eu une rencontre très serrée entre le Chili de Alejandro Tabilo et le Pérou qui s'est terminé au dernier match où le Chili l'a emporté finalement pour éviter la surprise. Tabilo, qu'on rappelle, qui vient de Toronto, n'est-ce pas, Alex?
Ben voilà, c'est pour ça que je riais, c'est parce que tu as mis l'accent sur Tabilo, alors que ça me fait plaisir de l'appeler un Canadien lui aussi, là, mais tu as raison, il représente très, très bien le Chili. Alors, Abraham, merci pour ta couverture. J'espère que tu as apprécié ton temps au Parc Jarry, au stade IGA ce week-end. Et puis, je sais que même si les journées sont longues à couvrir du tennis, je vais te dire une chose. Il n'y a rien de plus trippant que de couvrir son sport préféré, ça, mon gars. J'espère que tu n'as pas en profité autant que tu en as voulu.
Certainement. Merci, les gars. À bientôt.
Merci. Bye-bye, Abraham.
Salut, Abraham.
De notre côté, on va faire une courte pause et au retour, on continue notre couverture de cette Coupe Davis. Mais cette fois, on reçoit la directrice de l'Omnium Banque Nationale, Valérie Tétrault.
Vous cherchez une escapade dernière minute? Profitez de 35 % de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Disponible pour un temps limité seulement, rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur des festivités de Montréal. La Saint-Valentin approche. Préparez un séjour romantique parfait dans les magnifiques suites vitrées de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour découvrir leur offre spéciale qui inclut 20 % de rabais sur votre nuitée, un souper, trois services pour deux personnes, un petit déjeuner pour deux et une boîte de chocolat.
On l'a annoncé plus tôt dans l'émission, on poursuit notre couverture de la Coupe Davis cette fois. On reçoit la directrice de l'Omnium Banque Nationale, une personne qu'on aime toujours recevoir au podcast sur la ligne, Valérie Tétrault. Valérie, merci de te joindre à nous.
Très grand plaisir.
Valérie, comment te sens-tu là, après cette compétition prestigieuse en début de saison là, comme ça que vous avez eu à organiser? Là, est-ce que la pression est retombée là, d'abord et avant tout avant qu'on rentre dans le vif du sujet?
Oui, la pression est retombée. Ça a été un événement, évidemment, qu'on a eu à organiser en très peu de temps. Pas mal demandant, surtout dans le dernier mois. Toute une manière de débuter l'année, mais au final, je dirais qu'on est très heureux là, des résultats, autant pour ce qui est de l'assistance qu'évidemment les résultats sur le terrain. On a eu des matchs qui étaient excitants à regarder, donc un beau spectacle quand même qui a été offert pour les amateurs qui étaient présents maintenant ou encore ceux qui ont suivi ça du côté de la télévision. Et ben, pour nos joueurs, c'est mission accomplie parce qu'évidemment, l'objectif principal, ben, c'était d'assurer notre qualification là, pour la ronde qui aura lieu à partir de septembre. Et là, j'ai bien hâte de savoir évidemment dans quel groupe on va se retrouver et qui seront nos prochains adversaires.
Je vais laisser Hugues parler des résultats et tout ça, mais avant, j'ai une question pour toi pour savoir, bon, comment c'est organiser une compétition comme ça en début de saison, là, au lendemain de Noël ou presque, puis je sais que ça a dû écourter d'une certaine manière beaucoup de temps des fêtes du personnel de Tennis Canada. Ça représente quoi pour Tennis Canada d'organiser une compétition comme la Coupe Davis ici même à Montréal?
Je ne vais pas vous faire de cachette. Hein. Le tirage a eu lieu, évidemment, alors qu'on était à Malaga, donc toute fin d'année 2023. On était à la fin du mois de novembre. Et je vous dirais que c'est probablement l'événement qu'on a organisé où on a eu le moins de temps pour l'organiser. Donc, quand il y a eu le tirage, pas que ça ne nous tentait pas nécessairement de l'avoir, mais on n'était pas sûr si on voulait avoir la Coupe Davis ou pas. Et au final, ben, ça te limite quand même un petit peu dans tes options. Parce que de décider justement en si peu de temps d'aller vers un aréna où potentiellement on n'est jamais allé, alors qu'en hiver déjà trouver une place qui peut accueillir ce genre d'événement, c'est pas évident étant donné tous les matchs de hockey qui sont disputés dans plusieurs des options qu'on aurait un peu plus tard dans l'année. Et donc, ça a demandé quand même beaucoup à une équipe qui est fatiguée et je ne vous fais pas de cachette, nous, normalement, notre saison morte, ben, c'est justement aux alentours des fêtes. C'est là que les gens sont en mesure enfin de récupérer, de prendre des vacances un peu plus longues. Mais en même temps, j'ai envie de dire que pour l'esprit d'équipe, pour partir une année en force, ben, il n'y a rien mieux que de faire un événement et c'est un peu ce que j'ai ressenti là, dans les dernières semaines.
En tout cas, moi, j'ai pas senti que ça avait l'air d'un événement organisé à la dernière minute. Ben, franchement, j'ai trouvé que, pour utiliser le terme anglo, le setup était vraiment beau. Vous avez fait beaucoup avec pas beaucoup d'espace, j'ai l'impression. Puis honnêtement, bravo pour ça. Là, puis je dis pas ça juste pour flatter dans le sens du poil. Là, je le pense vraiment comme fan puis comme observateur de tennis averti. Fait que excellent travail là-dessus. Maintenant, Hugues, je te laisse enchaîner avec ce qui s'est passé sur le terrain parce que ça aussi, c'est des bonnes nouvelles.
Ouais, belle victoire 3-1 contre la République de Corée, un adversaire coriace, ma foi. Ça n'a pas été si facile que ça, même si on gagne 3-1 ultimement. Gabriel Diallo avait beaucoup de poids sur ses épaules, je pense, pour le match numéro 1 et le match numéro 4. Parle-nous un peu des résultats sportifs du week-end.
Oui, ben, je suis contente pour Gabriel parce que c'est vrai qu'il arrivait quand même dans cette rencontre-là avec pas mal de pression, étant donné bon, qu'il a grandi ici, il a joué longtemps
c'est son quartier, Villeray.
À l'IGA. Ouais. Donc, veux pas, ben oui, ça t'amène une espèce de dose de motivation qui est importante, mais ça vient aussi avec pas mal de pression. Et il arrivait aussi en tant que numéro 1. Donc, avec l'absence de Dennis, de Félix, les yeux étaient un petit peu plus tournés vers lui et il savait qu'il devait livrer. Sur papier, il était favori de toute façon contre les deux joueurs, mais en sachant bien que, bon, il y a le contexte Coupe Davis qui change toujours la donne et il y a le fait que, déjà, leurs joueurs qui jouaient numéro 2, Kwan, on sait que c'était en fait un joueur qui est bien meilleur que son classement.
Il a déjà été 52e.
Exactement,
mondial.
Déjà battu Félix il y a 2 ans. Et bon, je pense pas que Gabriel a été nécessairement parfait, mais je pense que justement dans les moments où il devait trouver des manières pour rehausser son niveau, il a su le faire. Et je pense surtout que et c'est là que je suis contente. Ce week-end-là a permis à plusieurs amateurs probablement de le découvrir encore un peu plus. Son tennis et aussi sa personnalité parce que il y a quelque chose d'attachant chez Gabriel. Hein. Je pense qu'il sait comment communiquer son énergie à la foule, comment faire embarquer la foule. Et pour ça, j'ai l'impression que là, les gens ont encore plus hâte de le voir en action un peu plus tard cet été. Mais la bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il y a encore beaucoup de place quand même à l'amélioration dans son jeu. Donc déjà, je pense qu'il a un jeu qui lui permettrait facilement d'intégrer le top 100 et qui sait peut-être de se rapprocher aussi du top 50. Et quand on parle de sa constance au service, de selon moi son jeu de transition qui peut développer encore mieux, il fait 6 pieds 8. Quand il vient au filet, on n'a pas toujours l'impression qu'il fait 6 pieds 8. Il y a une place à prendre. Et je pense qu'au final, tout ça est très, très positif parce que ça veut dire qu'il peut s'améliorer et ça veut dire qu'il peut encore progresser beaucoup au classement.
En tout cas, il a su bien amener la foule avec lui, surtout dans le quatrième match, qui était le match décisif, qui s'est joué en 3-7 finalement. C'est certain qu'en Coupe Davis, c'est toujours un facteur. As-tu senti que la foule l'a porté jusqu'à la fin aussi?
Je pense que oui, parce que ça aurait pu être difficile après avoir perdu le deuxième set. Hein? Donc, si on avait mis ce match-là, joué dans un tournoi, on va dire, challenger, devant une foule d'une centaine de personnes, qui n'est pas nécessairement pour lui, est-ce qu'il aurait vraiment remporté le match? Je ne sais pas. Mais là, je pense que, bon, effectivement, est allé puiser un petit peu d'énergie avec cette foule dans la troisième manche. Il a commencé avec beaucoup d'aplomb et ça, c'était la clé. Ouais. Parce qu'honnêtement, on commençait, je pense, à être un peu nerveux. Hein? Ouais. Même dans l'équipe, on me disait qu'on ne voulait pas que Vašek ait à revenir sur le terrain parce que ça aurait été franchement compliqué. Ouais. Le match de double avait été très long et enchaîné pour lui 3 matchs en si peu de temps. Évidemment, il avait joué le vendredi aussi. Ça aurait été compliqué, donc c'était mieux comme ça avec le scénario où c'est Gabriel qui allait chercher la victoire au troisième set.
Oui, il l'a fait avec beaucoup de panache, hein, un 6-1 dans le troisième. Et moi aussi, j'avais senti une petite baisse d'énergie en fin de deuxième, mais finalement, il a bien mené son troisième set. Valérie, j'aimerais qu'on parle des balles un petit peu maintenant. On sait que c'est un sujet récurrent sur les circuits en ce moment. Bon, c'est des balles différentes souvent d'un tournoi à l'autre. Il y a eu des joueurs qui ont eu des blessures apparemment reliées aux balles. On sait que dans le match de Vašek, son premier match, il y a eu beaucoup de changements boîte de balles. Peux-tu nous donner un point sur la situation des balles?
Oui, bien, c'est un peu inquiétant quand même, la situation avec les balles. J'ai l'impression que, bon, ce sera le sujet de l'heure pour une bonne partie de la saison parce qu'effectivement, une fois qu'un joueur commence à en parler, bien là, on a vu un peu l'effet boule de neige. Et avec raison en même temps. Et bon, je pense qu'il y a comme deux parties à la conversation. La première étant justement le fait que, bon, est-ce que à travers les circuits, on serait capable de peut-être centraliser le processus pour le choix des fournisseurs de balles selon dans quel moment de la saison on se trouve. Je prends l'exemple de l'Omnium Banque Nationale. Nous sommes responsables de signer une entente avec un fournisseur de balles. Alors, c'est tentant, évidemment, d'y aller avec le fournisseur qui nous offre le meilleur partenariat. De notre côté, on a toujours voulu se positionner comme étant un tournoi préparatoire au US Open. Alors, ça va de soi pour nous, étant donné que la balle est un élément très important, évidemment, pour les joueurs de tennis, on veut utiliser la même balle qui sera utilisée aux internationaux des États-Unis. Alors, la question ne se pose pas vraiment. Mais dans le cas de d'autres tournois qui sont parfois, justement, avant des tournois du Grand Chelem, on peut prendre une balle différente, ce qui amène les joueurs, donc, de semaine en semaine à jouer avec des balles qui sont différentes. Et c'est sûr que pour l'amateur moyen qui joue une fois de temps en temps, ça fait peut-être pas une énorme différence. Mais je peux vous dire que pour un joueur, la différence, elle est énorme. Si vous étiez pour leur bander les yeux, ils seraient capables de vous dire laquelle est la Wilson US Open et laquelle est la Dunlop ATP, par exemple. Et l'autre partie de la conversation, mais c'est plus là vraiment sur le contrôle de qualité. Parce que justement, il y a plusieurs joueurs qui semblent dire que en ce moment, il y a des balles qui ont baissé en termes de qualité. Et c'est là que c'est un petit peu plus inquiétant. Et ça, ça a fait partie un peu de ce qu'on a expérimenté ce week-end. Parce que je peux vous dire que les balles, je n'étais pas vraiment surprise d'en entendre parler vendredi parce que pendant la semaine d'entraînement, notre équipe nous disait que selon les boîtes de balles qu'on ouvrait, la qualité n'était pas toujours la même. Et là, on se demandait, est-ce que Dunlop nous a envoyé, par exemple, des caisses qui dataient d'un certain temps? Il semblait y avoir un collant sur certaines boîtes de balles. Donc, à dire, on a voulu cacher une espèce de logo qui était là, parce qu'un tournoi utilisait cette balle-là aussi avant, il ne l'utilise plus. Alors, toutes sortes de questions qui se posent. Et là, c'est de savoir comment l'ATP, la WTA, les différents tournois peuvent assurer un contrôle de qualité pour ce qui est de mesurer la pression, par exemple, qui est dans les balles. Et là, je pense qu'il y a vraiment une plus grosse réflexion à faire.
C'est peut-être le seul sport professionnel où l'outil de travail, qui est la balle, varie. On ne verrait pas ça au niveau du hockey, du football, NFL, du baseball. Au niveau des spécifications, est-ce que tous les fournisseurs ou tous les fabricants seraient en mesure d'avoir une balle quand même constante?
Bien, j'imagine que ce serait faisable parce qu'à quelque part, ils sont supposés être capables d'assurer une certaine constance entre justement leur modèle de balle qu'ils développent. Après, je pense que de toute façon, on n'aura jamais un seul modèle de balle parce qu'on le voit, bon, si on joue à l'intérieur, si on joue sur terre battue, la balle va répondre différemment. Alors, on n'a pas le choix de développer différentes sortes de balles, mais je pense quand même qu'il y a moyen justement de faire un peu le ménage dans tout ça et surtout quand c'est pour le bien-être au final des joueurs et que ça les mène vers certaines blessures.
Donc, c'est vraiment sur la constance plus que sur la balle elle-même. Je pense que les joueurs ont un enjeu parce que, tu sais, on en parle là, mais ça fait déjà un bon petit bout qu'on en parle. Là. Ça fait plus d'un an, là, j'ai l'impression qu'on parle des balles à travers de différents tournois. Alors, je pense que c'est vraiment plus au niveau de la constance des balles parce que la balle soit différente ou pas, j'ai l'impression que les joueurs peuvent l'accepter parce que, bon, les deux jouent avec la même balle au final. Là.
Si elle est de qualité, oui. Là, on a eu certaines plaintes. Par exemple, ce qu'on a vu ce week-end, c'est justement que la balle était un peu morte, là, un peu sans vie, donc qu'elle n'avançait pas comme elle aurait dû avancer. Fait, je pense que justement, c'est vraiment une question où il y a deux aspects là, à étudier.
Intéressant. Valérie, quand je suis allé faire mon court passage à la Coupe Davis, j'ai remarqué que les gradins étaient pas mal pleins. Est-ce que vous êtes satisfait de l'assistance durant le week-end? Parce que honnêtement, c'est pas toujours évident là, à la dernière minute ou presque, et puis surtout un vendredi après-midi d'attirer du monde, et c'était quand même pas mal plein. Là.
Très satisfaite des résultats. T'sais, on se disait, bon, on va avoir seulement 2-3 semaines pour vendre nos billets. On arrive dans une période, évidemment, après les fêtes où c'est pas toujours évident. Le format de la Coupe Davis fait en sorte que, bon, il y a toujours des questions qui se posent aussi à savoir qui fera partie de cette équipe. On n'avait pas Félix, mais je pense que, bon, on a vu que la communauté du tennis avait hâte de revoir la Coupe Davis. Ça faisait un bon moment qu'elle n'avait pas été disputée ici à Montréal. Ça datait de 2012. Et je peux vous dire qu'au final, justement, ben, on a réussi à vendre tous ces billets-là en mettant, bon, à peu près 0$ en marketing. C'est donc dire que ben, les gens qui gravitent autour du monde du tennis ben, sont encore intéressés d'en consommer. Et c'est ces gens-là ben, qui étaient au rendez-vous ce week-end. Et pour moi, ben, c'est important parce que c'est une manière, je pense, de leur redonner aussi, en quelque sorte. Je me souviens très bien, très jeune, être venu moi-même assister à une rencontre de Coupe Davis ici même, au stade IGA, alors que Sébastien Larrault était sur le terrain avec Daniel Nestor. Et c'est pour ça que j'étais contente de voir aussi des jeunes qui s'entraînent dans les différents clubs du Québec qui étaient présents pour voir justement l'équipe canadienne à l'œuvre. Et je pense que là, c'est une belle source d'inspiration et de motivation.
Mais moi, je vais dire, ça doit être l'effet sur la ligne. Parce que nous, on en a parlé. je pense qu'on a contribué. Non, je fais des blagues, évidemment, là, mais.
Vous avez quand même votre part du gâteau.
mais j'étais quand même impressionné de voir ce monde-là vendredi après-midi, particulièrement. Là, je le mentionne, c'est pas évident là, d'attirer du monde en après-midi comme ça, un vendredi. Là, puis c'est là, je pense qu'on constate qu'au Québec, ben, on n'est pas juste des fans de l'Omnium Banque Nationale. Je pense qu'on est vraiment des fans de tennis parce que.
Alex, j'ai envie de dire, on est des fans de tennis, on voit que l'intérêt pour le tennis continue de croître et ça, c'est franchement une bonne nouvelle. Et j'ai envie de dire qu'on est en train, enfin, depuis le temps qu'on en parle, de développer un peu plus cette espèce de tradition Coupe Davis. C'est sûr que le fait d'avoir remporté les grands honneurs il y a 2 ans, ça nous a un petit peu aidé. Mais quand même, tu sais, les gens commencent à être un peu plus familiers, je pense, avec le format, avec ce que ça veut dire. Et dans ce cas-là, mais ça importe un peu moins de savoir justement si ce sera Félix et Dennis qui vont être sur l'équipe parce qu'on s'en vient voir l'équipe canadienne.
Oui, puis ça parle de la profondeur de l'équipe aussi. Ouais, c'est de voir qu'il y a d'autres joueurs que ceux du top 50 là, qui peuvent attirer. Hugues, une dernière question peut-être?
Oui, puis aussi le fait que, bon, là, on est qualifié pour la phase finale qui va être à Malaga. Puis on se retrouve année après année maintenant dans la phase finale de groupe. Donc c'est important de démontrer qu'on est dans les meilleurs au monde année après année, champion en 2022. Donc, je pense qu'aussi, il y a effet d'entraînement. On rejoint les grandes nations de tennis qu'on revoit régulièrement, donc France, États-Unis, Allemagne. Donc ça aussi, je pense que ça contribue à un élan pour la Coupe Davis.
Oui, on est loin de ces années où on jouait exactement dans les rencontres de zone. Et là, c'est un petit peu plus difficile, évidemment, de bâtir tout ça.
Et ça part du chemin aussi que le Canada a fait depuis ce temps-là et tout le travail que toi et toute ton équipe, et j'inclus Louis Barfiga là-dedans aussi, qui a eu un grand rôle à jouer là-dedans. Ça parle de tout le chemin qui a été fait depuis ce temps-là. Et puis, c'est tout à votre honneur, je vais le dire comme ça.
Il n'y a jamais rien d'acquis, donc on va continuer de travailler pour consolider notre place justement sur l'échiquier mondial.
Non, en effet. Puis, tu sais, je pense que vous savez déjà que Félix, Chapeau, Bianca, etc., Léla, ils ne seront pas là pour tout le temps. Alors, il faut déjà préparer ce qui s'en viendra derrière eux, même si on a quand même encore, souhaitons-le, beaucoup de belles années avec eux autres. Et je pense que ça sera le cas, là, mais souhaitons-le. Valérie Tétrault, merci infiniment de t'être joint à nous. Félicitations encore pour cette Coupe Davis organisée à vitesse maximale, mais le résultat a été plus qu'impressionnant. Bravo à toute l'équipe, puis tu reviens nous jaser. Quand tu veux, tu le sais bien.
Merci pour l'invitation, puis j'ai envie de vous dire merci pour non seulement la promotion, mais la belle couverture aussi que vous avez assurée tout au long du week-end.
Notre grand plaisir. Merci Valérie.
Merci.
Merci une fois de plus à Valérie Tétrault. On va faire une courte pause de notre côté, puis au retour, on va parler de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov, qui eux disputaient un tournoi en France.
Vous cherchez une escapade dernière minute? Profitez de 35% de rabais sur les magnifiques suites de l'Hôtel Montville. Disponible pour un temps limité seulement, rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour au cœur des festivités de Montréal. La Saint-Valentin approche, préparez un séjour romantique parfait dans les magnifiques suites vitrées de l'Hôtel Montville. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour découvrir leur offre spéciale qui inclut 20% de rabais sur votre nuitée, un souper 3 services pour 2 personnes, un petit déjeuner pour 2 et une boîte de chocolat.
De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. L'épisode achève déjà, on est dans le troisième bloc de l'émission. Messieurs, on a fait une couverture en long et en large la Coupe Davis, mais c'est pas tout ce qui se passait sur la planète tennis. Il y avait Félix Auger-Aliassime, on en a parlé la semaine passée, il n'était pas de cette Coupe Davis-là parce qu'il avait décidé de jouer un tournoi en France. Et puis, Hugues, on regardait le tableau ensemble la semaine passée et on se disait, c'est un tableau prenable pour Félix Auger-Aliassime. Ce ne serait pas surprenant de le voir aller loin dans ce tournoi-là. Il a quand même atteint les demi-finales avant de perdre contre Alexander Bublik en 3 manches. Est-ce que pour toi, c'est une performance quand même satisfaisante dans le contexte?
Je pense que Félix devait battre Alexander Bublik. Donc, match compliqué contre Arthur Cazot qui s'est rendu en quatrième ronde en Australie. Le Français Cazot qui a vraiment bien joué. Puis finalement, Félix a réussi en toute fin de match à remporter ce match en 3-7 qui était son premier match là, après un bail au premier tour. Félix, il perd quand même contre l'éventuel champion, mais c'était la première fois en 50 matchs en 3-7 que Félix perdait un match après avoir gagné le premier set. Donc, c'est un milestone un peu dommage, là, parce qu'habituellement, quand il gagne le premier set, dans des 2-3, Félix remporte ses matchs. Bublik a finalement gagné ce match-là. On sait que Bublik est un joueur extrêmement talentueux, peut-être pas le plus constant sur le circuit. C'est un petit peu chaotique, je vais dire comme ça, avec le Bublik sur le terrain. Mais pour moi, c'est quand même une déception qu'il n'ait pas réussi à se rendre un peu plus loin. Surtout que Holger Rune, de l'autre côté, s'est fait sortir en demi-finale aussi. Donc, c'était un tableau à la portée de Félix. Donc, je pense qu'il aura une certaine déception de son côté aussi.
Oui, c'est un tableau à sa portée, certainement, mais au moins, il enchaîne les victoires, ce qui n'a pas toujours été le cas l'année passée. Et là, déjà, il a fait un troisième tour en Australie, déjà encore une demi-finale ici. C'est quand même pas si mal dans les circonstances. Je ne sais pas, Nico, es-tu plus optimiste ou tu es comme dans le clan à Hugues où tu disais, là, c'était prenable, il aurait fallu le prendre, le tableau.
C'était prenable, mais je suis quand même content de voir que Félix a refusé d'aller à la Coupe Davis pour aller en demi-finale. Le reste aurait été un peu décevant. Oui. Mais ça reste que c'est une demi-finale dans ce genre de contexte. Là, en début de saison, c'est clair que lorsqu'on regarde l'adversaire, on se dit « Mon Dieu, c'est prenable », surtout dans la manière dont il jouait. il est en quête de retrouver ses repères après une saison plus difficile, même si la fin de saison avait été bonne. Mais j'ai envie de dire que les gars, ça reste une demi-finale. On ne va pas se plaindre pour une demi-finale. Là, Félix a été tellement difficile l'année dernière, c'est-à-dire donc chaque demi-finale, chaque finale, évidemment, ce n'était pas un immense tournoi, ce n'était pas un immense tableau, mais ça reste que ben, c'est une demi-finale.
Non, mais tu sais, déjà, au moins, c'est pas une défaite dans un premier tour ou dans exact. Un deuxième tour. C'est un peu ça que je trouve qui est intéressant là, dans le cas de Félix. Je pense que son début de saison, malgré tout, est relativement encourageant. Là. Si on compare à certaines périodes l'année passée où il avait de la misère à passer un match ou deux matchs, bon, on verra dans les tableaux un peu plus complexes qui s'en viendront là, éventuellement, mais il reste que je pense que c'est pas si mal. On a parlé d'Alexander Bublik qui a remporté ce match-là. Vous savez que j'aime utiliser l'expression « ça relativise la défaite », mais il y en a peut-être un autre pour lequel ça peut relativiser d'une certaine manière la défaite. Et Hugues, ce gars-là, c'est Denis Shapovalov parce que lui aussi, il a eu sur son parcours Bublik, et ça aurait très bien pu changer la nature du tournoi de Bublik, cette confrontation-là.
Absolument. Autant je suis moins prompt à dire que c'est une défaite relative pour Félix, autant pour Shapovalov, il a eu des balles de match contre Bublik, donc contre l'éventuel champion. Après avoir balayé le premier 7-6-1, il perd finalement 7-6 au deuxième et 5-1 au troisième set. Mais ça a été un bon match de Shapovalov. Donc, beaucoup de signes encourageants quand même pour Denis là, dans ce match. Là, qui est quand même un premier tour, mais performance extrêmement encourageante pour Shapovalov.
Nico, commentaire sur cette performance de Shapovalov?
Je vais t'avouer que contrairement à Félix, j'aurais préféré le voir à la Coupe Davis simplement pour retrouver peut-être cette passion ou ce feu qu'il avait dans les yeux au moment où ça allait bien pour lui. Je pense que de remporter une phase de groupe, disons ça comme ça, même si ce n'était pas de manière individuelle, je pense que ça l'aurait peut-être revigoré plus que cette espèce de parenthèse individuelle. Décevant, je n'ai plus d'attente pour Denis Shapovalov. Je pense que tranquillement, il devra apprendre à comprendre que sa place n'est peut-être plus dans le top 15 ou dans le top 20. Ce sont des mots qui sont durs à admettre, mais je pense que c'est la triste réalité. Je pense quand même que j'aurais été chouette de le voir en fin de semaine à Montréal, simplement pour retrouver ses repères et un peu goûter à la...
Les deux vont rester en France, messieurs. Ils vont jouer un tournoi à Marseille. Je regardais le tableau de Félix Auger Aliassime. Et encore une fois, honnêtement, c'est relativement prenable pour Félix Auger-Aliassime quand on regarde ce qui va se passer à Marseille. Il va avoir le Français Quentin Alice dans les pattes au premier tour, qui est quand même classé 101e mondial. Ce serait Zhang au deuxième tour potentiellement, peut-être un Achanov en quart de finale, mais il a une fiche gagnante. Bon, c'est presque compliqué là, en quart de finale là, parce que tu as un Achanov, un Batista Agut ou un Gasquet, mais ben franchement, il a quand même une fiche gagnante contre tous les joueurs jusqu'à la demi-finale où il affronterait peut-être un Dimitrov. Ça, ce serait peut-être pas la bonne nouvelle, mais je pense que c'est encore très prenable pour Félix Auger-Aliassime à Marseille. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Ça devrait être intéressant pour Denis Shapovalov aussi. Lui, il affrontera Hugo Gaston au premier tour. Ce sera quand même difficile, mais il a une fiche de 1-0 là, contre Gaston. Écoutez, c'est un tournoi où il y a beaucoup de monde, mais Hugues, tu voulais ajouter quelque chose?
Moi, je me projette beaucoup pour Félix. Déjà, les gars, au Sunshine Double, pour voir où il se situe vraiment, pour voir si son classement de 30e mondial va pouvoir progresser cette année. C'est là que les gros points vont arriver. Tant Félix que Denis ont besoin de points. C'est pour ça qu'ils sont allés du côté de la France pour jouer ces ATP 250. Et on regarde le tableau. Donc, Urkacz, premier favori, et Dimitrov en bas de tableau. C'est des joueurs que Félix a déjà battus. Mais il faut qu'ils fassent des points. Ils sont là, et Félix et Denis, pour accumuler des points, pour faciliter leur entrée dans le tableau plus tard en saison. Donc, il faut des performances. Il faut des quarts, des demi, des finales. Peut-être un titre pour Félix, pourquoi pas. Mais je regarde ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis on saura où nos Canadiens vont se situer vraiment pour la saison quand on va arriver à Indian Wells et à Miami plus tard ce printemps.
Ouais, je regarde le tableau et ben franchement, je pense que c'est aussi prenable jusqu'en demi-finale là, pour Félix.
Ouais.
En tout cas, il ne faudrait pas surprendre de le voir aller loin. Dimitrov connaît un bon début de saison. Ce serait certainement un des joueurs à surveiller dans ce tournoi-là. Peut-être à noter un match de premier tour intéressant, mais en fait, qui aurait peut-être été vraiment intéressant en 2013. Roberta Bautista Agut contre Richard Gasquet. Ça aurait peut-être été un match de quart de finale dans un grand chelem en 2013. Nico, tu t'attends à quoi de Félix dans ce tournoi-là quand tu regardes le tableau qui est quand même prenable et qui, bon, mine de rien, quand même un début de saison là, décent?
Ben c'est ça. Non seulement c'est surprenable, mais on le sait trop bien, Félix, c'est un gars de séquence. Fait que ce serait le moment de le prouver une fois de plus. Peut-être un quart de finale, demi-finale, puis les gars, mine de rien... C'est peut-être dans un mois et demi, là, mais ça s'en vient rapidement. Là, le swing américain, là, voilà. le Double Sunshine, ouais. Miami, Indian Wells, des tournois hyper, hyper importants. Oui. Novak sur Indian Wells notamment, c'est dire à quel point cette année ce sera relevé. Donc, il faut que Félix arrive frais et dispo, mais surtout avec un bon momentum.
Oui, et les gars, n'oubliez pas que les tournois en ce moment à Marseille et à Montpellier, la semaine dernière, se jouent en intérieur, qui est la condition préférée de Félix. Ses quatre titres sont venus à l'intérieur, donc il se doit de bien performer là parce que c'est les conditions qu'il aime le mieux. Donc, ça ajoute à l'intérêt de voir où il sera en haut là, cette semaine à Marseille.
Bon, passons du côté féminin parce qu'il y avait quand même un tournoi qui se disputait et je le dis avec un sourire parce que c'est ta préférée, Hugues, mais je le dis avec un sourire en coin, évidemment, là, parce qu'elle nous fait passer par toute la gamme des émotions, Ostapenko, là, puis on en a parlé à plusieurs reprises au podcast à quel point on a une relation amoureuse avec cette joueuse-là d'une certaine manière. Mais Colin, elle connaît un bon début. Oui. Elle est sur une bonne séquence depuis la fin de l'année passée.
La joueuse la plus constante du circuit féminin en ce moment. 4 finales en 4 tournois, dont 2 titres. Elle a remporté Linz ce week-end. Elle a été donc 2 finales en double et 2 en simple avec 2 titres. C'est quand même pas banal. On voit vraiment son côté très, 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 très complet à Ostapenko. Bon, elle nous fait sourire parce que c'est une fille qui est un peu...
émotive.
Elle fait des mimiques sur le terrain qui sont vraiment, vraiment rigolotes. Elle va souvent contester des appels de la reprise vidéo qu'on ne peut pas vraiment contester. Elle ne croit pas à la reprise vidéo. Elle le dit à plusieurs fois. Donc, elle va souvent contester une balle qui va être appelée contre elle sur une reprise vidéo. Mais moi, j'ai appris à l'apprécier parce que comme une Medvedev ou une Rublev, qui sont amies d'ailleurs tous les trois, c'est une joueuse un peu atypique, mais très talentueuse. Donc, moi, je commence à être attaché à Yelena Ostapenko maintenant. Mais surtout, c'est ses performances qui m'impressionnent en ce moment. 2 titres déjà en 2024, 4 finales. Bravo, Ostapenko.
Moi, je me souviens de Yelena Ostapenko à Québec. Elle nous en a fait voir de toutes les couleurs. Elle était tout jeune à l'époque. Mais je me souviens d'un match où elle était particulièrement émotive et la raquette y allait par là, comme on dit. Elle avait marqué les partisans de Québec. Puis pas longtemps après, peut-être un an ou deux après, elle remportait Roland-Garros. Alors des fois, vous savez... Vous avez la chance de voir des joueurs, peut-être que vous ne soupçonnez pas là, sous vos yeux, qui vont être des grands champions de Grand Chelem. Commentaire sur cette victoire de Yelena Ostapenko, mon cher Nico?
Ouais, j'ai regardé la finale en reprise. Et les gars, Ostapenko, elle cogne en Moses. Oh, ça oui, fait longtemps, oui. Il me semble, que je n'ai pas vu, mis à part peut-être Sabalenka, une joueuse qui, dans un espace relativement restreint, est capable de décocher à plat, qui plus est, aussi rapidement. Alex, tu as parlé de Roland-Garros. Elle connaît très bien le sable de Paris. Elle est bonne sur cette surface. C'est encore un peu trop tôt d'y aller de prédiction, surtout qu'on sait que mon ratio cette année, ça va plutôt bien en termes de prédiction.
Ratio en général.
Mais je pense que ça année, pourrait...
Ton ratio en général.
Mais je pense que Ostapenko, on ne la voit pas aller présentement parce qu'elle n'est ni dans le top 5, ni dans le top 10.
Elle se rapproche.
Mais ça s'en vient du très, très tennis pour Ostapenko. Sérieusement, les gars, d'autant plus une championne qui sait comment gagner. On le sait qu'il n'y a rien de plus dangereux que ça. Je l'ai regardé ce week-end. Ça fait longtemps que je n'avais pas un échantillon aussi frappant de Ostapenko. Et les gars, je dois dire que j'étais vachement impressionné.
Mais tu sais, quand on regarde ce qu'elle a fait dans les dernières années, au-delà de dire que, bon, elle n'était plus la championne de Grand Chelem qu'on a connue, et c'est vrai, mais il reste qu'elle a des titres à chaque saison depuis 2021. Alors, elle a gagné Eastbourne en 21, Dubaï en 22, Birmingham en 23, et puis Lynn, c'est Adélaïde depuis le début de la saison. Je veux dire, ça prend un joueur d'exception pour remporter un titre pendant 4, 5 années de suite et non seulement ça, remporter des titres grand chelem, mais là, on a plus que ça parce que c'est son 8e titre sur le circuit de la WTA. Elle en a 2 déjà cette année. Au-delà de ce qu'on peut penser, c'est quand même phénoménal, exceptionnel ce que Yelena Ostapenko réussit à faire. Dans les autres nouvelles, messieurs, avant qu'on complète l'épisode, pour ceux qui s'intéressent, ben, il y a Eugénie Bouchard et Caroline Wozniacki qui, à Dallas, vont jouer un match hors concours. Ça peut toujours être intéressant si vous êtes un fan d'Eugénie Bouchard. Et parlant de match, entre guillemets, showcase, hors concours, Hugues, ben, il y a de tes joueurs préférés, et j'avoue, moi, ce sont des joueurs qui m'ont fait tomber en amour pas mal avec le tennis, mais qui vont faire un événement de pickleball. Peut-être plus de détails pour nous autres.
Ils l'ont fait le week-end dernier, c'était à Miami, donc deux équipes de grandes vedettes du tennis historique. Là. Donc d'un côté, Maria Sharapova, John McEnroe, contre le couple mythique, j'ai envie de dire, Steffi Graf, André Agassi. Bon, ça fait partie de la stratégie d'acquisition du pickleball pour aller chercher une clientèle de tennis aussi. Donc, ils vont chercher des très gros noms. On sait qu'Andy Roddick, que Michael Chang a participé à ça. On sait qu'Eugénie Bouchard a signé un contrat professionnel avec le pickleball. Donc, c'est un événement qui va attirer de nouveaux adeptes. Mais c'est des performances qui vont attirer aussi une audience télé. Donc, il y a des gens qui sont curieux de voir McEnroe, Sharapova, Agassi, Graf. Donc, je dirais que c'est du bon marketing de la part du pickleball en ce moment. Un sport qui est en pleine croissance et il y a des budgets intéressants de ce côté-là aussi, donc ça peut attirer certains ex-joueurs de tennis.
Ben en tout cas, si tu veux aller chercher une clientèle, disons-le comme ça, un peu plus âgée, dans le monde du tennis, et tu vas chercher Agassi, Graf, McEnroe, je pense que tu frappes direct dans le mille. Mm-hmm. Tu peux difficilement aller chercher mieux que ça. Et qui sait, peut-être même, il y aurait peut-être un argument à faire. Là. On s'en reparlera peut-être, Nico, là, je te lance ça comme un pavé dans la mort. Peut-être qu'il y aurait un argument à faire sur le fait que Steffi Graf pourrait peut-être être la plus grande joueuse de l'histoire. Et s'ils ont mis la main sur elle pour une promotion comme ça, alors ça peut pas nuire. Hein. Messieurs, c'est ce qui complète l'épisode, mais Hugues, tu voulais nous donner d'autres détails à surveiller cette semaine.
Ben, rapidement, on aime bien faire un petit survol là, des tournois en cours cette semaine. Il y a beaucoup, beaucoup d'actions quand même là, sur les circuits WTA, ATP. Donc, du côté WTA, à Abu Dhabi, c'est un 500 avec Rybakina en première favorite et Ons Jabeur en deuxième favorite. On a parlé évidemment de Marseille avec Félix qui va être présent et Denis. Mais il y a aussi un tournoi à Dallas où Francis Tiafoe reprend du service. Donc, un 250 à Dallas et à Cordoba du côté de l'Argentine. Donc, beaucoup, beaucoup d'actions cette semaine sur plusieurs surfaces. Cordoba, c'est sur terre battue rouge, donc cette semaine.
Alors voilà, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Je vous remercie infiniment, messieurs. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, qu'on est maintenant essentiellement sur la plateforme C23 de Cogeco et qu'on est diffusé également à TVA Sport. Nicolas Richard, comme c'est la tradition, ben, je te donne le mot de la fin.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.